2 Samuel chapitre 7, les versets 1 à 16. 2 Samuel chapitre 7, versets 1 à 16. Au nom de Jésus. Le roi David s'installa dans son palais. Le Seigneur le protégeait de tous les ennemis qui entouraient son royaume. Un jour, le roi dit au prophète Nathan, « J'habite une maison en bois de cèdre. » Et le coffre sacré de Dieu n'a pour abri qu'une tente de toile. Qu'en penses-tu? Tu as certainement une idée à ce sujet, répondit Nathan. Vas-y, réalise-la, car le Seigneur est avec toi. Mais la nuit suivante, le Seigneur adressa la parole à Nathan pour lui dire, « Va trouver David, mon serviteur. Tu lui diras, voici ce que te déclare le Seigneur. Ce n'est pas toi qui me construira un temple où je puisse habiter. Je n'ai d'ailleurs jamais habité dans un temple. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, et jusqu'à présent, au contraire, j'ai accompagné les Israélites en n'ayant qu'une tente comme demeure. Bien plus, durant tout ce temps, j'ai confié à plusieurs chefs le soin de gouverner Israël, mon peuple. Mais je n'ai reproché à aucun d'entre eux de ne pas m'avoir construit un temple en bois de cèdre. C'est pourquoi tu diras encore à David, voici ce que le Seigneur d'Israël te déclare. Lorsque tu n'étais qu'un gardien de moutons, je t'ai pris au pâturage pour faire de toi le chef d'Israël, mon peuple. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises. J'ai exterminé tes ennemis devant toi. Et grâce à moi, tu vas acquérir un renom semblable à celui des plus grands rois de la terre. Je vais donner à Israël, mon peuple, un lieu où je l'installerai pour qu'il demeure sans rien avoir à craindre. Aucune nation malveillante ne recommencera à l'opprimer comme autrefois. À l'époque où j'ai confié à des juges le soin de gouverner Israël, mon peuple, je te protégerai toi-même de tous tes ennemis. Enfin, je t'annonce que moi, le Seigneur, je vais t'accorder des descendants. Lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, je désignerai l'un de tes propres enfants pour te succéder comme roi et j'établirai fermement son autorité. C'est lui qui me construira un temple et moi, je l'installerai sur un trône inébranlable. Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. S'il agit mal, je le punirai comme un père punit son fils. Cependant, je ne lui retirerai pas mon appui comme je l'ai fait pour Saül lorsque je l'ai rejeté et que je l'ai remplacé par toi. Un de tes descendants règnera toujours après toi, car le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. Le temps des fêtes est là, et ce soir, j'imagine, beaucoup ont hâte de savoir déjà les cadeaux qu'ils espèrent avoir. Et lors des échanges de cadeaux, nous entendons souvent cette fameuse phrase, c'est l'intention qui compte, et non pas ce qu'on donne. On ne sait pas si c'est par modestie, ou peut-être pour s'excuser à l'avance, si le cadeau n'est pas à la hauteur de l'attente du bénéficiaire. Mais parfois, même l'intention ne suffit plus. Et c'était le cas pour David ici. Lui qui voulait donner un cadeau avec de bonnes intentions, qui voulait donner un cadeau digne de ce nom, de ce Dieu éternel, en guise de reconnaissance à son Dieu. Parce que sa motivation nous semble, je dis bien, nous semble louable au verset 2 et 3. Je vais relire ce passage. Un jour, le roi dit au prophète Nathan, « J'habite une maison en bois de cèdre et le coffre sacré de Dieu n'a pour abri qu'une tente de toile. Qu'en penses-tu? » Et Nathan a dit, « Tu as certainement une idée. Vas-y, réalise-la, car le Seigneur est avec toi. » Et même le prophète trouver l'idée géniale. logique. Et tout de suite, il n'a même pas consulté l'Éternel, il l'a cautionné. Vas-y, le Seigneur est avec toi. Coup de tonnerre, l'Éternel a refusé. Je ne veux pas de ça. Vous voyez, même l'intention ne suffit plus. Mais si nous avons bien suivi la lecture, Dieu a même refusé l'idée. Ce n'est pas le cadeau qu'il refusait. C'est l'idée qu'on puisse lui construire un édifice, qu'en mettant sa demeure, versets 5 à 8, je vais le relire pour que nous puissions bien le comprendre. Va trouver David, mon serviteur, tu lui diras, voici ce que te déclare le Seigneur. Ce n'est pas toi qui me construiras un temple où je puisse habiter. Et voilà les raisons. Je n'ai d'ailleurs jamais habité dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël et jusqu'à présent. Au contraire, j'ai accompagné les Israélites en n'ayant qu'une tente comme demeure. Bien plus, durant tout ce temps, j'ai confié à plusieurs chefs le soin de gouverner Israël, mon peuple, mais je n'ai reproché à aucun d'entre eux de ne pas m'avoir construit un temple en bois de cèdre. Analysons un peu les raisons de refus de l'Éternel. Premièrement, il dit, « Est-ce toi qui me bâtiras une maison où j'habite ?» Cette façon de parler de Dieu s'explique avec ce qui est dit au verset 8 et 9. C'est pourquoi tu diras encore à David, voici ce que le Seigneur d'Israël te déclare. Lorsque tu n'étais qu'un gardien de moutons, je t'ai pris au pâturage pour faire de toi le chef d'Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises. Grâce à moi que tu as acquéri le nom renom semblable. C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce à toi de me faire une maison? Pourtant, c'est moi qui t'ai donné une nation. Vous voyez la tournure de phrase? C'est moi qui t'ai donné un nom, même le nom de David, qui n'était rien du tout avant, est devenu tout un symbole. David, jusqu'aujourd'hui, ça crée des polémiques, non? La cité de David. David, je vais te donner un nom. Donc c'est moi qui t'ai donné cette grandeur. Donc toi, tu n'as pas les moyens de me redonner cela. Puisque ton existence dépend de moi-même. C'est moi qui t'ai donné une dynastie. C'est moi qui t'ai donné une royauté. Voilà la première raison. Deuxièmement, verset 6b, « Je me suis déplacé, » il dit bien « Je me suis déplacé avec une tente pour demeure. » C'est lui qui a choisi d'habiter dans une tente. Là, c'est très important. Ce n'est pas juste une phrase. Il montre bien notre Dieu, sa particularité par rapport aux autres divinités. C'est pour ça que j'ai choisi les images au tout début à l'accueil. Parce que dans l'Antiquité, normalement, ce n'est pas un Dieu qu'on peut enfermer dans une maison comme toutes les autres divinités. Et dans l'Antiquité, lorsqu'un roi avait gagné ou conquis une terre ou des terres, il fallait construire juste après un temple pour faire asseoir en quelque sorte l'autorité du roi. Et les rois construisaient des temples pour leur Dieu, juste pour montrer que son Dieu a gagné la bataille et que les nations vaincues doivent respect et soumission totale, pas à leur Dieu, mais au roi. Et à ce moment-là, leur Dieu était en quelque sorte instrumentalisé pour des fins politiques. Et c'est ça que Dieu refuse. Je ne suis pas ton outil, David. Même si tu as gagné des batailles, il a enlevé cette mentalité de l'Antiquité, que cette reconnaissance, finalement, derrière le grand bâtiment, qui est-ce qu'on revoit tout de suite? C'est David. Qui est-ce qu'il a fait? Mais pas l'Éternel. Alors Dieu dit, je refuse. Alors le Seigneur veut que les choses soient claires, que le temple ne soit pas une marque de ta victoire, David, de ta victoire au combat, mais ce lieu doit être un lieu de culte. Et une image très forte se dégage de ce deuxième point, c'est que Dieu est omniprésent, comme on le sait. Il n'est pas limité géographiquement dans un temple. Il peut choisir n'importe quel lieu pour se révéler, comme il l'a fait lors de l'exode d'Égypte jusqu'à la terre promise. Et là, pour nous protestants, justement, un lieu de culte n'est pas sacré en soi. Ce lieu n'est pas sacré en soi. Ce n'est pas le lieu qui rend le culte sacré. C'est l'inverse, c'est le culte qui rend le lieu sacré. Même si la définition du mot sacré signifie mis à part, c'est vrai que c'est un lieu qui est mis à part pour le culte. Mais la notion du sacré dépend uniquement de la présence de Dieu quand on l'invoque et qu'il vienne assister à nos cultes ou à nos réunions de prière. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors ma chambre à coucher, mon salon, mon bureau, n'importe quelle pièce de ma maison devient un sanctuaire quand j'invoque le nom de l'Éternel. Et quand vous retournez chez vous, vous ne laissez pas Dieu ici, n'est-ce pas? Il repart avec vous et il veut vivre avec vous. C'est lui-même qui l'a dit. Il se déplace à chaque fois que son peuple levait le campement. C'est intéressant. À chaque fois que le peuple d'Israël se déplaçait, Dieu aussi se déplaçait avec eux. C'est magnifique, non? On ne trouve pas ailleurs dans les autres religions un Dieu mobile. Les autres dieux sont immobiles. Ils restent dans leur temple et c'est aux gens de venir à lui. Mais notre Dieu, il est mobile. Il est avec nous tous les jours. Dieu est toujours avec moi, là où je suis. Et ça, c'est merveilleux. Et on devient le sanctuaire, le lieu où Dieu habite. En préparant cette méditation et en faisant mes petites recherches habituelles, je suis tombé sur un ouvrage fort intéressant qui touche à la fois ce que nous venons de dire et sur ce qui se passe actuellement dans notre société où on veut tellement faire une séparation entre le cultuel et le temporel. Avec toutes ces histoires de neutralité que nous entendons à la radio, la croix du Saint-Nicolas, la crèche du bazar de Noël à Strasbourg qu'on veut enlever, parce qu'on dit que ça appartient à tout le monde, Noël, le tenue de scout interdite dans les Yvelines à Houille, parce que paraît-il ce sont des signes distinctifs dans les lieux publics, etc. Cet ouvrage en question s'intitule, et je vous conseille de le lire si vous le trouvez, « La royauté et le sacré » de Christophe Levallois, sorti chez les éditions Cerf. Dans l'histoire, dit-il, je reprends ces mots, le sacré, la spiritualité et la société se rejoignent à chaque fois, depuis l'histoire de l'humanité. On n'a pu jamais faire cette séparation. Le sacré, la spiritualité et la société se rejoignent à chaque fois. Et il fait des démonstrations magnifiques dedans. Mais la question de la royauté traverse toutes les dimensions de notre existence, aussi bien la question politique que la question spirituelle. Car dans la pensée ancienne, il y avait cette croyance qu'il y a une royauté universelle, cette royauté cosmique, et que ce monde supérieur, céleste, que nous ne voyons pas, a une influence dans notre société, qu'on le veuille ou pas. Et c'est vrai, Paul aussi l'a dit dans son épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Écoutez ce qu'il dit. « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. » Et il donne le détail, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Tout pouvoir politique, toute autorité sur ce monde est régie par une force cosmique, par une force supérieure à ce que nous croyons, même si on veut dire qu'on est neutre. Mais je ne veux pas tomber dans du mysticisme. Mais qu'on le veuille ou non, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas ici-bas. Des choses qui nous dépassent, des choses qui sont au-dessus de nous. Et cette force-là veut s'imposer. Et cette force dicte ses lois dans le monde. Et ça se transparaît dans les législations de tout pays. Il y a à chaque fois du spirituel derrière. Derrière tout dictateur, si vous grattez un peu derrière, il y a toujours quelque chose de spirituel derrière. Donc il y a toujours, on ne peut pas séparer ces deux mondes. Tandis que le règne de Dieu qui existe aussi, comme il est annoncé dans Hébreux chapitre 12, verset 28, voilà ce qu'il est dit. « Soyons donc reconnaissants, puisque nous recevons un royaume inébranlable, manifestant cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable avec respect et crainte. » Nous avons reçu un royaume inébranlable, chers frères et sœurs en Christ. Mais ce royaume-là ne s'impose pas différemment aux autres royaumes. Il s'invite à travers chaque individu. Et c'est pour cette raison que nous prions à chaque fois que nous le pouvons, la prière du Notre Père, que nous disons « Que ton règne vienne, ce royaume inébranlable, ce royaume invisible, mais qui a son impact dans le monde. Ce règne de Dieu se situe au niveau de son peuple, et non dans des infrastructures, et non dans des structures humaines. Ce royaume se situe en toi, en moi. » Et encore une fois, Paul l'a compris sous l'inspiration du Saint-Esprit quand il a dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Et cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez pas. » Et c'est ça qui fait peur aux gens. Pourquoi on veut détruire ce royaume inébranlable ? Parce qu'on ne peut pas le capturer, ce royaume. Ce n'est pas un règne où là, il y a un chef ou un président ou un ministre. On ne peut pas le capturer, ce royaume inébranlable. Et en fin de compte, si nous revenons à cette demande de David de construire un temple pour l'Éternel, Dieu n'était pas du tout chaud de le faire. Il ne le voulait pas. Finalement, si vous avez bien compris, Dieu ne voulait pas qu'on puisse lui construire un temple. Mais, vous voyez bien, il a quand même accepté à la fin et a désigné Salomon pour le faire. Mais l'histoire a prouvé que le temple n'était pas nécessaire. On peut le voir avec la destruction du temple jusqu'aujourd'hui. Dieu a permis que le temple soit détruit. Et c'est aussi un peu ce qui s'est passé avec Samuel. Rappelez-vous, quand le peuple a demandé à un roi, « Donne-nous un roi !» Dieu n'était pas d'accord avec cette demande. Mais puisqu'ils ont insisté, alors il a accepté. Mais sous réserve que voilà ce qui vous attend. Ils vous prendront vos terres, vos enfants, ils vont vous taxer, alors préparez-vous. Et l'ultime preuve que l'Éternel n'a pas voulu du temple, il a donné son Fils unique pour être vraiment la tente de la rencontre. Car il faut savoir que grâce à cette tente, à ce Jésus qui est né, l'homme et Dieu sont réunis en Jésus. L'homme et Dieu sont réunis sous cette tente. Et voici ce que Jésus a dit, et qui a choqué les chefs religieux. « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » Ce bâtiment où nous nous réunissons chaque dimanche n'est qu'un lieu de culte, mais le sanctuaire que le Seigneur veut habiter, c'est nos cœurs, nos pensées. « Écoute, ô Israël, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ton énergie, tout ce que tu es doit être l'habitation de l'Éternel. Qu'il soit omniprésent en nous. » Et c'est tout le paradoxe, comme ici dans notre texte, ce Dieu maître de l'univers a préféré de vivre sous la tente. Vous voyez ? Le maître de l'univers, il a préféré de vivre sous la tente au lieu dans un grand bâtiment bien fait au temps de David. Ce qui implique qu'il veut vivre en nous et avec nous, même si nous sommes si petits et insignifiants. comme l'attente de la rencontre. Et pour terminer, écoutons la voix de notre Seigneur qui n'a qu'un seul souhait. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Surtout aujourd'hui, surtout ce jour de fête, il veut faire la fête avec toi. Amen.